où se place la région des Laurentides là, au niveau de ces références-là pour 2019?
Bien, écoutez, la région des Laurentides est à peu près au milieu du peloton quand on regarde les taux de référence. C'est intéressant de voir cette donnée-là. Par contre, celle dont je vais parler, à mon avis, est encore meilleure, c'est qu'on voit une augmentation du nombre de références dans les Laurentides. On a eu 6 références de plus en 2018. Les gens peuvent dire, oh, c'est pas beaucoup, ça, 6. On est passé de 34 à 40. C'est quand même une augmentation intéressante. Et il y a eu un peu plus de donneurs qui ont été qui provenaient des Laurentides, qui ont permis de faire des dons d'organes. Alors, il y a eu 27 organes qui ont pu être transplantés à partir de donneurs des Laurentides, ce qui, somme toute, est une très belle nouvelle parce que ça a permis de transplanter probablement autour d'une vingtaine de personnes parce que, bon, quand on compte les organes, les poumons, c'est 2 organes, puis en général, on transplante 2 poumons. On peut transplanter 2 personnes avec un rein. Chacun un rein, le foie, le cœur et le pancréas dépendamment. Donc, ce sont de beaux progrès. Les équipes travaillent très fort partout dans les Laurentides. On fait de la formation avec eux, on va continuer. Et la ministre McCann a annoncé qu'elle voulait qu'il y ait un médecin coordonnateur en don d'organes dans le CIS des Laurentides. Et ça fera partie de ce qu'on espère voir arriver chez vous pour 2020. Qu'est-ce qu'un médecin coordonnateur? C'est un médecin qui aide à former les gens sur le terrain et qui travaille à soutenir la réalisation du don d'organes avec les infirmières et les administrateurs dans l'hôpital.
C'est ça, parce qu'on m'a souvent fait observer, M. Beaulieu, qu'il y avait des lacunes au niveau du transfert des donneurs potentiels, c'est-à-dire, par exemple, oui, dans les Laurentides, mais surtout dans les Hautes-Laurentides, parce que on semble être plus loin des centres, des grands centres. Finalement, est-ce que c'est ce qu'on observe aussi?
Je vous dirais que de plus en plus, à chaque fois que c'est nécessaire et pertinent, puis je vais expliquer ça tout de suite après, on se déplace là où est le donneur. Il y a comme 2 grandes situations. Il y a le donneur en mort neurologique, le cerveau est mort, donc on peut déclarer le décès sur place et pour la famille dire ben votre proche est décédé. Et généralement, dans ces cas-là, le donneur est transféré vers Montréal. Lorsque c'est un arrêt cardiaque qu'on entrevoit, il y a 2 étapes. Il faut faire un retrait de ce qu'on appelle le traitement du maintien des fonctions vitales, c'est-à-dire que la famille a décidé, souvent basé sur les volontés de la personne, qu'on allait faire un arrêt de traitement parce que le pronostic est très, très sombre. Et dans ces cas-là, on peut considérer un don après arrêt cardiaque, circulatoire, je m'excuse. Et la plupart du temps, cela se fait dans l'hôpital où la personne décède parce que la famille veut faire ses adieux, puis c'est tout à fait normal, au moment où on va retirer le maintien des fonctions vitales qui devrait provoquer un arrêt de respiration puis un arrêt de circulation. Et tout ça se fait parce que c'est clair que la mort est prévisible là, de façon imminente. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner, d'être dans ces cas-là, généralement dans l'hôpital où le donneur a été identifié et référé. Et dans d'autres cas, on va plutôt transférer vers Montréal. Mais on s'adapte.
C'est
donc,
ça.
Théoriquement, la distance ne devrait pas être un enjeu pour s'occuper d'un donneur.
D'un donneur. Donc, si on regarde...
J'espère que je n'ai pas été trop compliqué.
Mais c'est sûr que c'est très technique, mais pour que les gens comprennent bien, est-ce que le fait qu'on décède ou qu'il y a un donneur potentiel, je parle par exemple d'un scénario du genre accident de moto en plein été, la personne arrive à Mont-Laurier, est-ce que ça va compliquer les choses? Est-ce qu'un manque de chirurgien, par exemple, pourrait compliquer le don d'organes?
En fait, les chirurgiens qui prélèvent un donneur ne sont habituellement pas les chirurgiens de l'hôpital où le donneur est référé. Alors, ça va être des chirurgiens qui vont venir de Montréal, de Québec, peut-être même d'ailleurs au Canada, parce qu'on a des ententes pour les urgences. Alors, nous, notre responsabilité, c'est d'organiser la logistique pour amener le ou les chirurgiens dans l'hôpital où on doit faire le prélèvement. Donc, oui, ça peut être un petit peu plus complexe.
Plus long.
Mais on le fait régulièrement. C'est quelque chose, on a prélevé à beaucoup d'endroits dans le Québec. Et si on devait se déplacer à Mont-Laurier, on s'organiserait. Mais c'est sûr que des fois, ça peut allonger un petit peu les délais. S'il faut, on va aller atterrir à Mont-Tremblant. Je ne sais pas s'il y a un aéroport à Mont-Laurier, là, mais on va aller atterrir à Mont-Tremblant, puis on va amener les médecins préleveurs à l'hôpital de Mont-Laurier pour être capable de faire ce qui doit être fait là.
Donc, ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de barrière là, quand on a un donneur potentiel. Tout est mis en place pour aller chercher le tout.
Pour aller prélever les organes sur place, tout à fait. Donner l'accompagnement à la famille aussi sur place. Nos coordonnateurs de Transplant Québec vont se déplacer dans l'hôpital où est le donneur. On va accompagner les médecins et les infirmières qui sont là-bas pour les aider dans le processus. C'est sûr que s'ils font pas ça très souvent, ils ont besoin d'un certain accompagnement. Ça, c'est des choses qu'on est bien habitué de faire et qu'on fait régulièrement.
Sur le nombre de personnes qui sont décédées en attente là, de malheureusement, d'une transplantation, il y en a combien là, dans les Laurentides?
Oh, là, vous me posez une bonne question. Je ne crois pas que j'ai l'information précise du nombre de personnes qui sont décédées dans la région. Je pourrais
en attente, là, oui, c'est ça, parce que c'est malheureusement ça qui se passe. Je sais qu'on l'a pour le Québec, si je ne m'abuse. Donc, ce sont 50 personnes décédées en attente d'une transplantation l'an dernier. C'est quand même beaucoup de gens au Québec.
Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un peu l'ombre dans le bilan cette année. Il est sûr qu'on va mourir parce qu'on attend une transplantation, mais on peut aussi mourir pour d'autres conséquences qui sont pas directement liées au fait d'attendre un organe. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à faire beaucoup mieux qu'on fait là, puis qu'on peut certainement pas s'asseoir sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on est franchement dans la bonne direction. C'est ça qui nous encourage. Et le fait que la courbe des références dépasse celle des patients en attente, qui est une première, bien, ça nous montre que le travail se fait de mieux en mieux dans les hôpitaux. Et on doit augmenter nos efforts. Voyez-vous, quand on regarde les transplantations de poumons, bien, on en a fait 70 en 2019, et c'est plus que jamais. On regarde aussi la liste d'attente, elle a diminué énormément. On est passé de 2 ans à moins d'un an d'attente. OK, on n'est pas satisfait de ça, mais c'est un progrès réel. Et à chaque fois qu'on transplante quelqu'un de plus de poumons, bien, on sauve clairement une vie. Même chose pour le cœur et le foie. Quand on parle des reins, bien, c'est surtout de quitter la dialyse puis d'avoir une meilleure santé, une meilleure qualité de vie, c'est certain.
C'est ça, je le voyais dans le bilan, M. Beaulieu. Il y a beaucoup de personnes dans les Laurentides qui sont justement en attente de reins.
Oui. C'est lié à notamment au diabète et qui amène dans ses phases plus finales une insuffisance rénale chronique terminale. Donc, la seule solution, c'est la dialyse. Et tous ces patients en attente sont en dialyse. Et on a tout avantage à les greffer, ces patients-là, d'abord parce que c'est le meilleur traitement. Et deuxièmement, ça sauve beaucoup d'argent au trésor collectivement parce que la greffe de rein coûte beaucoup moins cher que la dialyse. Mais j'insiste, c'est d'abord le meilleur traitement. Donc, c'est aussi une raison de continuer à déployer nos meilleurs efforts dans chacune des régions du Québec. Et c'est heureux de voir que dans les Laurentides, bien, on est clairement dans la bonne direction. Il y a encore de la place à l'amélioration parce que on le voit, là, les taux de référence pourraient être meilleurs dans les Laurentides. Et on est convaincu qu'on va aller dans cette direction-là dans un futur proche.
En 2019, je pense qu'il faut le souligner, il y a eu quelques donneurs d'organes, là, donc des gens qui sont décédés, qui ont signifié à leur famille, qui ont signé leur carte, qui ont vraiment indiqué « moi, je veux donner mes organes au moment de mon décès ». On parle de combien de donneurs l'an dernier?
179 qui ont pu donner. Mais nous, on en a traité 239, puis à travers ces 239-là, bien, il y en a pour qui on a découvert des problèmes de santé qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être transplantés. Et ça, c'est normal et c'est souhaitable. Je veux dire, si on trouve un problème, il faut le savoir et éviter de transplanter. C'est sûr que ce que vos auditeurs peuvent faire maintenant, aujourd'hui ou demain, c'est parler de ce qu'ils veulent avec leurs proches. Ça, c'est la chose qu'on peut faire. Par exemple, on pourrait dire, écoutez, moi j'ai réfléchi, c'est important pour moi de faire le don d'organes à mon décès parce que je pourrais sauver jusqu'à 8 vies peut-être. Alors je vous demande de respecter ma volonté, puis peut-être même un peu plus, d'essayer de faire en sorte qu'elle se réalise, à moins que ça soit pas possible, parce que pour moi c'est important. Et même si je sais que ça va être un moment très difficile pour vous, parce que ça va être après un décès subi, hein, j'étais bien hier, aujourd'hui on dit que je suis pratiquement mort ou que c'est juste une question d'heure, ça va être difficile pour les proches. Mais merci de vous rappeler que c'est ça que je voulais qu'on fasse. Et ça, on le sait, ça fait une différence de procéder comme ça. Alors, dites-le comme vous voulez, mais dites-le.
C'est ça. Faites-en part à votre famille. Ce que je voyais en 2019, il y a eu 35 % des refus des familles. Et ça, M. Beaulieu, c'est soit des gens qui sont passés outre la volonté d'une personne ou bien la personne n'en avait pas parlé. Qu'est-ce qui explique ce 35 % au Québec?
C'est sûr que les refus de famille, c'est quelque chose sur lequel on travaille constamment. On est heureux de voir que ça diminue. Ça semble que les efforts de sensibilisation portent, que les gens parlent de plus en plus. C'est beaucoup, beaucoup lié à l'événement subi de la perte d'un être cher. C'est quand on est dans une situation de crise, parce que c'en est une en général pour une famille, c'est difficile de prendre la meilleure décision. Alors, quand la clarté a été faite au préalable, que les volontés de la personne ont été clairement communiquées, il y a quelqu'un dans la famille qui se rattache à ça et ça inverse souvent le sens de la discussion de la famille qui est hésitante. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Maintenant, ce qu'on sait de certaines juridictions, si je prends par exemple la situation à Philadelphie, où il y a un organisme en don d'organes, ils ont des résultats qui sont franchement parmi les meilleurs au monde. On parle de 58 donneurs par million d'habitants, alors qu'au Québec, on est autour de 23. Okay. Ils ont tout de même autant de refus de famille que nous. Et pourquoi ils ont des meilleurs résultats? C'est parce qu'ils ont mieux organisé leur système dans les hôpitaux et ils forment constamment le personnel pour les aider à bien identifier et référer les donneurs. Donc, c'est ce facteur-là est probablement le plus important. Puis en même temps, mais il faut amener avec nous les citoyens à exprimer leur volonté pour que à chaque fois que le don peut se réaliser, qu'il se réalise. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, vont dire non, il faut respecter, mais nous, ce qu'on souhaite à Transplant Québec, c'est qu'ils se soient bien informés avant de prendre une décision qui a quand même de l'impact sur la vie de peut-être 8 personnes. Puis une autre façon de le réfléchir, c'est peut-être mon fils, c'est peut-être ma femme qui aurait besoin d'une transplantation. Et mon Dieu, que je serais donc content quand ça sera qu'un donneur aura accepté de le faire. Est-ce que ça m'interroge pas par rapport à moi-même?
Donc, ça veut dire que ce que j'entends de votre message, M. Beaulieu, c'est que les investissements que le gouvernement va faire ou a fait dans la région, notamment des Laurentides, c'est vraiment pour aller à la formation du personnel pour mieux déceler les donneurs, du soutien aux familles de ces donneurs-là également?
Oui, puis organiser tout le processus dans l'hôpital. Parce qu'on travaille sur une période de 48 à 72 heures. Puis une des choses qu'on doit faire, c'est toute une série d'examens. Et l'hôpital, où est le donneur, a une contribution très importante à fournir de ce côté-là. Et le médecin coordonnateur, lui, va aider à la fluidité, à régler les problèmes, à discuter avec les personnes, regarder les indicateurs dans l'hôpital pour voir comment on peut améliorer nos résultats. Et quand on regarde les taux de référence des régions les meilleures au Québec, actuellement comme le Saguenay, Lac-Saint-Jean, l'Estrie et Montréal, ce sont toutes des régions où il y a actuellement des médecins coordonnateurs. Et l'objectif de la ministre, si j'ai bien compris, c'est que dans la prochaine année, on essaie d'arriver à 32 médecins, dont un par établissement de santé au Québec. Donc, il y en aura un pour les Laurentides.
Donc, ça veut dire, c'est ça, on voyait justement la championne qui est Saguenay. Nous, on se situe où par rapport justement à cette région-là? On est quand même assez loin là, du Saguenay.
Oui, bien, en fait, les taux de référence par 100 000 habitants sont 3 fois meilleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean que dans les Laurentides. et les Laurentides pourraient certainement se situer au même niveau, je l'espère, dans un avenir rapproché.
Donc, ça veut dire que ça va venir, ces investissements-là, c'est pas encore en place, ça y va, bon, comme on dit, au compte-gouttes, finalement?
Bien, en fait, on est dans toute la stratégie de déploiement parce que on doit aussi amener une formation, un accompagnement au départ auprès de ces médecins pour bien les instruire, je peux dire ça, dans le rôle qu'ils peuvent jouer avec les outils dont ils disposent. Alors, on espère commencer très, très bientôt. Et comme on va y aller en quelques étapes, bien, on espère vraiment que la première phase, les Laurentides soient dans cette première phase de développement qui va être en 3 temps, vraisemblablement.
C'est ça.
Donc, j'espère pour l'automne, c'est ce qu'on souhaite.
C'est ce qu'on souhaite, c'est clair. Puis je sais qu'il y a une association de médecins ici à l'hôpital régional de Saint-Jean qui est assez active. C'est vraiment une communauté de médecins assez tissée, serrée. Est-ce que il n'y a pas là le rôle aussi de Transplant Québec d'aller les rencontrer, de faire, entre guillemets, pas du lobby, mais quasiment dans le sens où aller les convaincre, leur faire comprendre de l'importance? Est-ce que ça, c'est fait déjà?
Oui, on le fait régulièrement. On le fait aussi auprès du personnel de l'urgence des soins intensifs en particulier. On a différents outils pour faire ça. Il y a une formation en ligne qui a été suivie par plus de 6000 professionnels de la santé au cours des 5 dernières années. Et on va sur place et on essaie d'adapter nos formations en fonction des besoins plus spécifiques de l'établissement. Mais il ne faut pas se cacher que nos unités de soins intensifs et d'urgence sont extrêmement sollicitées. J'écoute les nouvelles, puis je sais que, par exemple, à l'hôpital de Saint-Jérôme, il y a souvent des enjeux, et on est conscient de ça. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de talonner gentiment pour que le meilleur puisse se produire. En même temps, l'identification, la référence des donneurs, c'est vraiment la responsabilité première de l'hôpital.